Europe 1.
16h-18h.
Historiquement vôtre. Stéphane Bern et Mathieu Noël.
Le récit.
Il photographiait main dans la main et pourtant l'histoire n'a une fois de plus retenu que son nom à lui, Robert Capa, connu comme l'un des plus grands photographes de tous les temps. Il a partagé la vie d'une pionnière du photojournalisme, une femme qui n'hésitait pas à arpenter les champs de bataille pour témoigner des horreurs de la guerre. Stéphane Bern nous raconte, sans cliché, la grande Gerda Taro.
Ombre parmi les ombres, Gerda Taro a subi le plus cruel destin que puissent connaître les ombres, celui de ne même pas être sa propre ombre, mais celle d'un autre. Pendant plus de 60 ans, quand on cherchait son nom, on le trouvait certes cité des centaines de fois, mais toujours associé en quelques lignes, en quelques pages, à l'homme dont elle a un temps partagé la vie. L'écrivain François Maspero résume bien le sort que l'histoire a malheureusement réservé à la compagne de Robert Capa dans la biographie de la vie courte mais si intense de Gerda Taro. C'est sous le nom de Gerda Poril que notre héroïne voit le jour à Stuttgart dans l'Empire allemand le 1er août 1910 dans une famille modeste de commerçants juifs originaires de Galicie orientale. Ado, comme la plupart des jeunes de son âge, Gerda est coquette, aime danser et écouter du jazz. Mais la crise économique de 1929 pousse la famille à déménager à Leipzig. Là-bas, elle découvre un monde nouveau, un monde de gauche. Au gré de ses rencontres, de ses lectures aussi, elle s'initie au socialisme et tombe amoureuse de l'un de ses partisans, Georg Kuritzke. Dans ses bras, elle confirme son élan révolutionnaire. L'idylle est de courte durée. Hitler arrive au pouvoir en janvier 1933. La répression contre les Juifs se fait de plus en plus sévère. Gerda ressent le besoin de protester. Le 18 mars, elle est arrêtée pour avoir distribué des tracts anti-nazis. Résultat, elle passe 2 semaines en prison. À sa sortie, elle est dans la ligne de mire des nazis. Le temps presse, il faut partir. Auf Wiedersehen, l'Allemagne natale. Bonjour la France. À l'automne 1933, elle s'installe à Paris, non loin de Montparnasse, où elle trouve une chambre de bonne. Pour se nourrir, elle alterne les petits boulots, vendeuse de journaux ou dactylo. Elle a 24 ans, avec pour seule attache son ami de Leipzig, Ruth Serf. Tout lui semble possible. Un beau jour de septembre 1934, Gerda est attablée à la table du Dôme. Vous savez, c'est l'un des cafés où se réunissent les artistes de la rive gauche. Elle regarde les passants. Un béret couvre ses cheveux blonds vénitiens. Soudain, elle aperçoit un jeune homme. Ce n'est pas tant son air mystérieux qui l'interpelle, mais l'objet qu'il porte à l'épaule, un appareil photo. Il s'appelle André Friedman, c'est un juif hongrois. Lui aussi exilé à Paris, il a déjà publié pour une agence de Berlin, notamment les clichés d'une conférence de Trotsky à Copenhague. Mais ici, personne ne le connaît. Gerda va l'encourager à persévérer. Le 3 février 1936, André écrit à sa mère, surtout pour la rassurer. « Aujourd'hui, j'ai de nouveau emménagé avec Gerda. Elle m'aide énormément parce qu'elle a de bonnes relations avec les éditeurs et elle m'emmène partout avec elle. » Il la surnomme la débraillée, car elle court partout en portant les mêmes habits. Il faut dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'argent. Leurs journées se suivent et se ressemblent à un rythme effréné. Prendre des photos, écrire les légendes et courir les rédactions pour les vendre. Au printemps 36, Gerda a une idée. Et s'ils prenaient tous les deux une nouvelle identité? Des noms simples, sans histoire, sans patrie. Ce serait plus vendeur. André Friedman devient Robert Capa. Ça sème le doute sur son origine. Certains s'imaginent qu'il est américain. Quant à elle, elle se fera désormais appeler Gerda Taro. Leur baptême du feu a lieu en Espagne. Elle était 36 alors qu'ils sont envoyés par Vogel, directeur du magazine Vue. Armés de leur carte de presse, ils traversent les Pyrénées. Début août, ils découvrent un pays en guerre. Le coup d'état de Franco, le 18 juillet, a déclenché la guerre civile qui va dévaster le pays. Gerda Taro et son appareil photo vont en être parmi les principaux témoins et rapporteurs. C'est la première fois que des photographes peuvent se rapprocher au plus près des combats. Elle immortalise un nombre considérable de femmes, armes en main, qui luttent pour la démocratie. Sur l'un de ces clichés, on voit une femme en chaussures à talons, un genou à terre, avec à la main un revolver. De son côté, Robert Capa réalise l'une de ses photographies emblématiques, la mort d'un soldat républicain. Ces soldats républicains, ils apprécient bien la compagnie de Gerda. Ils la surnomment « la pequeña rubia ». La petite blonde, ne vous fiez pas aux apparences. Cette jolie jeune femme n'a peur de rien. Elle fait sa première une du magazine Regard avec un reportage à la morgue de Valence, après le bombardement qui pour la première fois s'attaque à des civils. Son nom est crédité et n'est pas accolé à celui de son compagnon. D'habitude, les magazines publient des photos estampillées « Capa et Taro » ou même « Photo Capa », quand bien même elles sont l'œuvre de Gerda. Mais ces photos-là, Capa ne les aurait jamais faites. Sa compagne, elle, n'a pas hésité à rapprocher son objectif de 50 mm au plus près du visage des morts. Malheureusement, les clichés n'ont pas l'effet escompté. Gerda Taro veut susciter l'émotion pour engager à la participation dans le conflit. Mais personne n'aide suffisamment l'Espagne, alors elle va prendre de plus en plus de risques. En juillet 1937, à la veille de ses 27 ans, elle participe à une offensive à 25 km de Madrid. Les Républicains prennent la ville de Brunete. Ils se rapprochent de la capitale, qu'ils comptent bien libérer des franquistes. Le 16 juillet, ces photos sont publiées à Paris. Mais au même moment, la bataille tourne en faveur de Franco. Gerda prend d'énormes risques. Le paysage n'est fait que de sang, de flammes et de cendres. Sous le feu des canons, elle concède à quitter la ligne de front. Elle monte sur le marchepied d'une voiture qui transporte des blessés. Mais quelques kilomètres plus loin, un char républicain surgit d'un champ de blé. Il percute la voiture, blessant grièvement Gerda, qui décède à l'hôpital au petit matin du 26 juillet 1937, après avoir pris le temps, évidemment, de demander ce qu'il était advenu de son appareil photo. Quelques jours plus tard, son enterrement au Père Lachaise réunit des milliers de personnes. Les plus grands artistes lui rendent hommage. Le sculpteur Giacometti sculpte un oiseau qui est posé sur sa tombe. Pablo Neruda et Louis Aragon prononcent ensemble son éloge funèbre. Un an après, Robert Capa publie un ouvrage réunissant leur travail. Mais il omet de préciser qui est l'auteur de chaque cliché. Résultat, le travail de sa compagne se retrouve mêlé au sien. Quand il disparaît en 1954, son frère se charge de préserver sa mémoire et de faire connaître son œuvre. Gerda Taro n'a pas eu cette chance. Toute sa famille a péri dans les camps. Son travail tombe alors dans l'oubli, jusqu'à la découverte fortuite à Mexico en 2007 d'une valise contenant 4500 négatifs. Ils sont signés Robert Capa, David Seymour et bien sûr Gerda Taro.
Europe 1. Historiquement vôtre.